Chapitre 99, où Mademoiselle Fifine rend, sans le savoir, un grand service à Salvator. Le lendemain de ces événements, vers 6 heures du matin, Salvator franchissait le seuil de la porte basse de la maison où habitaient rue de la Bourbe Jean Taureau et sa rousse compagne Mademoiselle Fifine. Bien avant d'arriver au 4e étage où était l'appartement du charpentier, Salvator entendit la mélopée singulière qu'il avait déjà, on s'en souvient, entendue bon nombre de fois, mais particulièrement le jour où il était venu prier Barthélemy Lelong de l'accompagner au château de Viry. Mademoiselle Fifine vomissait contre le charpentier le répertoire de ses imprécations les plus aiguës. Le géant grommelait comme Polyphème surprenant Assis et Galatée. Et cependant, ainsi qu'on le verra, cette fois, il ne s'agissait pas d'amour. Salvator frappa rudement à la porte. Mademoiselle Fifine, les cheveux épars, les yeux hors de la tête, les épaules hors de la robe, Mademoiselle Fifine, débraillée et haletante, rouge de colère, ouvrit la porte. « Ah ça, je ne puis donc venir une seule fois ici sans être témoin de vos disputes, » dit Salvator, en regardant sévèrement la maîtresse du charpentier. « C'est lui, Cator, » dit la grande fille. « Ah, c'est elle qu'elle agueuse !» s'écria Jean Taureau en bondissant sur Mademoiselle Fifine et en levant le poing au-dessus de sa tête pour l'assommer. « Allons, allons, » dit Salvator, moitié riant, moitié sévère. « Il est encore trop bon matin pour battre une femme, Jean Taureau. On n'a pas l'excuse d'être ivre. Pour cette fois, monsieur Salvator, rugit le charpentier, je ne puis pas vous obéir. Il y a 1 heure que le bras me démange, il faut définitivement que je la casse. » Jean Taureau était effrayant à voir. Sa respiration faisait le bruit d'un soufflet de forge. Ses lèvres tremblaient, pâles et serrées. Ses yeux étaient hagards, injectés de sang et jetaient des flammes. Mademoiselle Fifine, qui depuis longtemps déjà avait l'habitude de voir le géant en fureur, sentit tout son sang se glacer dans ses veines. Elle vit que c'en était fait d'elle si le commissionnaire n'intervenait pas énergiquement et promptement surtout. Elle s'élança donc vers lui, l'entoura de ses longs bras et, le regardant d'un œil plein de terreur, elle lui dit « Sauvez-moi, au nom du ciel, monsieur Salvator, sauvez-moi !» Salvator se dégagea de cette étreinte avec un geste de visible dégoût, et faisant passer derrière lui la grande fille, puis s'avançant vers Jean Taureau, et lui saisissant vigoureusement les mains, « Eh bien, demanda-t-il, qu'y a-t-il encore ?»« Il y a, » répondit l'Hercule, que le regard de Salvator semblait fasciné, « il y a que c'est une misérable, une infâme créature digne du bagne et de l'échafaud. Aussi est-ce pour lui épargner l'affront de la place de grève que je veux l'exterminer ici. » « Mais que t'a-t-elle donc fait ?» demanda Salvator. « D'abord, c'est une coureuse. Elle l'a fait, je ne sais quelle nouvelle connaissance dans le quartier, de sorte qu'on ne peut plus la voir à la maison. » « Quant à cela, mon pauvre Barthélemy, c'est de l'histoire ancienne, et si elle ne t'a rien fait de plus nouveau, tu devrais y être habitué. »« Oh, que si, elle m'a fait quelque chose de plus nouveau !» dit le charpentier, grinçant des dents. « Que t'a-t-elle fait ? Voyons, parle. »« Elle m'a volé !» hurla Jean Taureau. « Comment, elle t'a volé ?» demanda le jeune homme. « Oui, monsieur Salvator. »« Et que t'a-t-elle volé ?»« Tout l'argent d'hier. »« L'argent de ta tournée ?» « L'argent de ma nuit, les 500 000 francs de là-bas » « Les 500 000 francs ?» s'écria Salvator en se retournant pour interroger Mademoiselle Fifine, qu'il croyait toujours derrière lui. « Elle les assurait, et je voulais les lui reprendre lorsque vous êtes arrivés. Voilà la cause de notre querelle !» cria Jean Taureau, tandis que Salvator se retournait. Mais alors tous deux jetèrent un cri en même temps, car tous deux en même temps s'aperçurent de la disparition de Mademoiselle Fifine. Il n'y avait pas 1 minute à perdre. Aussi, sans échanger une seule parole, les deux hommes se précipitèrent-ils sur l'escalier. Jean Taureau tomba, plutôt qu'il n'arriva, sur la dernière marche. « Cours à droite, » dit Salvator, « moi je cours à gauche. » Jean Taureau se dirigea à toutes jambes du côté de l'esplanade de l'observatoire. Salvator, en deux sauts, se trouva au bout de la rue de la Bourbe, dominant à la fois les trois côtés. Le chantier des Capucins, à droite, devant lui la rue Saint-Jacques, et derrière lui le faubourg. Il regarda aussi loin que son œil put voir, mais à cette heure matinale, la rue était déserte, et les boutiques se trouvaient encore fermées. Mademoiselle Fifine s'était sauvée avec une rapidité prodigieuse, ou elle s'était réfugiée dans quelque maison voisine. Que faire? Où aller? Salvatore en était là dans ses recherches quand une laitière installée au coin de la rue Saint-Jacques et de la rue de la Bourme, devant la boutique d'un marchand de vin, lui cria « Monsieur Salvatore !» Salvatore, s'entendant appeler, se retourna. « Que voulez-vous » demanda-t-il. Hein, « Vous ne me reconnaissez pas, mon cher monsieur Salvatore ?» demanda la laitière. « Non, » répondit celui-ci, en continuant de regarder un peu de côté et d'autre. « Je suis Magdelone de la rue aux Fers, » dit la laitière. « Le commerce des fleurs n'allait plus, je me suis mise à vendre du lait. Hein, « Je vous reconnais maintenant, » dit Salvatore, « mais pour le moment, je n'ai pas le temps de pousser plus loin la reconnaissance. Avez-vous vu passer une grande fille blonde ?» Ah, courant comme une dératée, oui. Quand cela? À l'instant. Et quel chemin a-t-elle pris? La rue Saint-Jacques. Ah, merci, dit Salvatore, en prenant son élan dans la direction indiquée. Monsieur Salvatore, monsieur Salvatore, cria la laitière en se levant et en courant vers lui. Attendez un moment, cria la laitière, que lui voulez-vous? Je veux la rattraper. Et où allez-vous pour cela? Et tout droit devant moi. Vous n'avez pas loin à aller, alors? « Vous savez donc où elle est entrée ?» demanda Salvatore. « Oui, » répondit la laitière. « Alors, dites vite, où cela ?»« Là où elle va tous les jours, sans que son homme le sache, » dit la laitière en désignant du doigt, sous les numéros 297 et 299 de la rue, un cours de bâtiment appelé dans le quartier le Petit Bicêtre. « Vous en êtes sûr ?»« Oui, vous la connaissez donc, c'est une de mes pratiques. »« Et que va-t-elle faire là ?» « Ah, ne demandez point cela à une honnête fille, monsieur Salvatore. »« Mais enfin, elle va chez quelqu'un. »« Oui, chez un homme de la police. »« Que vous nommez Jean-Bassier, Jubassier. »« Ah, Jubassier !» s'écria Salvatore. « Ah, c'est justement cela, » répondit la laitière. « Ah, par ma foi, c'est providentiel, » murmura Salvatore. « Je cherchais justement son adresse et c'est mademoiselle Fifine qui me la donne. » « Ah, monsieur Jacqual, vous avez bien raison de dire « chercher la femme ».»« Merci, Magdelone. Votre mère va bien ?»« Oui, monsieur Salvatore, merci. Et elle vous est bien reconnaissante de l'avoir fait recevoir aux incurables, la pauvre bonne femme. »« c'est bien, » s'écria Salvatore. Et il se dirigea vers le Petit Bicêtre. Il faut avoir vécu dans le quartier Saint-Jacques et l'avoir exploré en tous sens pour connaître le dédale obscur, nauséabond, infect, squalide, que l'on appelait alors le Petit Bicêtre. C'était quelque chose comme les sombres et humides caves de l'île superposées les unes au-dessus des autres. Salvatore connaissait l'endroit pour l'avoir visité plus d'une fois dans ses investigations philanthropiques. Il lui fut donc facile de se diriger dans ce labyrinthe. Il s'engagea tout d'abord dans le corps de bâtiment de gauche et monta rapidement les 5 étages. Arrivé au 5e, c'est-à-dire sous les toits, il aperçut 7 ou 8 portes percées sur un sale corridor. Il colla son oreille à chacune des portes et écouta. N'entendant aucun bruit, il allait descendre au 4e quand, par une ouverture de l'escalier, dont la fenêtre avait été brisée dans des temps déjà reculés et n'avait point été réparée, il aperçut sur le palier du 5e étage de l'escalier de droite la silhouette de mademoiselle Fifine. Il descendit précipitamment les 5 étages et, regrimpant à pas de loup l'autre escalier, il arriva si doucement à la dernière marche que mademoiselle Fifine, qui frappait à coups redoublés avec une impatience croissante, ne l'entendit pas. Tout en frappant, elle criait « Mais ouvrez donc, c'est moi, Jibas, c'est moi !» Mais Jibassier n'ouvrait pas, quelque charme qu'il y eut pour lui à entendre italianiser son nom. Rentré chez lui à 4 heures du matin, sans doute rêvait-il encore au danger auquel, par le secours de son bon génie, il venait d'échapper, et se réjouissait-il en songe d'être sorti sain et sauf d'un péril aussi imminent qu'inattendu. Il entendit frapper à sa porte, mais Jibassier crut qu'il rêvait encore, convaincu que nul ne l'aimait assez tendrement pour lui faire visite à cette heure matinale, sinon le cauchemar en personne. Aussi se retourna-t-il résolument du côté du mur, bien décidé à se rendormir malgré lui et en murmurant « frappé, frappé ». Mais ce n'était point là le compte de mademoiselle Fifine. Elle continua en conséquence à frapper à coups redoublés en appelant le forçat des noms les plus doux. Elle était au milieu de ses tendres invocations quand elle sentit une main qui se posait doucement, quoique avec autorité, sur son épaule. Elle se retourna et vit Salvatore. Elle comprit tout et ouvrit la bouche pour appeler à l'aide. « Silence, misérable !» lui dit Salvatore, « à moins que tu n'aimes mieux que je te fasse arrêter et conduire à la prison à l'instant même. »«
Arrêter ? Comme quoi ?
Comme voleuse, d'abord. »
« Je ne suis pas une voleuse, entendez-vous, je suis une honnête fille !» hurla la drôlesse.
« Non seulement tu es une voleuse et tu as sur toi 500 000 livres qui m'appartiennent, mais encore... » Il lui dit quelques mots tout bas. La grande fille devint affreusement pâle.
« Ce n'est pas moi, dit-elle, qui l'ai tuée, c'est la maîtresse de Croque-en-Jambe, c'est Bébé Larousse. »
« C'est-à-dire que tu tenais la lampe, tandis qu'elle l'assommait à coups de chenet. » « C'est une chose, au reste, que vous éclaircirez ensemble quand vous serez dans le même cabanon. Et maintenant, est-ce toi qui crieras, ou est-ce moi ?» La grande fille poussa un gémissement. « Allons, dépêchons, dit Salvatore, je suis pressé. » Toute frémissante de colère, Mademoiselle Fifine passa sa main sous son fichu et tira de sa poitrine une poignée de billets de banque. Salvatore compta, il y avait 6 liasses. « Bien, dit-il, encore 4 liasses comme celle-ci et tout sera dit. » Par bonheur pour Salvatore et peut-être bien aussi pour elle-même, car Salvatore n'était pas homme à se laisser prendre à l'improviste, Mademoiselle Fifine n'avait aucune arme sur elle. « Voyons, voyons, les 4 dernières liasses, dit Salvatore. » Fifine, en grinçant les dents, fourra une seconde fois sa main dans sa poitrine et en tira 2 liasses. « Encore 2, dit Salvatore. » La grande fille fouilla une 3e fois et tira 1 liasse. « Allons, encore 1, la dernière, » fit le jeune homme, frappant du pied d'impatience. « C'est tout, » dit-elle. « Il y avait 10 liasses, » dit Salvatore. « Voyons, vite, la dernière, j'attends. »«
Ah, s'il y en a 1/10e, » dit résolument Mademoiselle Fifine, « je l'aurais perdue en route. »«
Mademoiselle Joséphine Dumont, » dit Salvatore, « prenez garde, vous jouez là un mauvais jeu. » La grande fille tressaillit en s'entendant nommer de son nom de famille. Elle fit semblant de chercher encore une fois dans sa poitrine.
« Quand je vous jure qu'elle n'y est pas, » dit-elle.
« Allons, vous mentez, » dit Salvatore.
« Dame, » dit-elle impudemment, « fouillez vous-même.
J'aimerais mieux perdre les 50 000 francs que de me risquer à toucher la peau d'une vipère comme toi, » répondit le jeune homme avec une expression d'indicible dégoût. « Mais marche devant, et au prochain corps de garde, on te fouillera. » Et il la poussa du coude vers l'escalier, comme s'il eût craint de la pousser de la main.
« Oh ! S'écria-t-elle, « tenez, reprenez-le donc, votre argent, et damnez-vous avec !»
Prenant alors dans sa poitrine la dernière liasse, elle la jeta avec rage sur le palier. « C'est bien, » dit Salvatore, « et maintenant va-t'en demander pardon à Barthélemy, et n'oublie pas qu'à la première plainte qu'il me fait de toi, je te remets entre les mains de la justice. » Mademoiselle Fifine descendit l'escalier en montrant le poing à Salvatore. Celui-ci la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle eût disparu dans les détours sombres du gigantesque colimaçon. Puis, lorsqu'il l'eut perdu de vue, il se baissa, ramassa la liasse, en sépara 10 billets qu'il mit dans son portefeuille, tandis qu'il fourrait dans sa poche les 9 liasses intactes et la liasse écornée.